L'incarnation. L'incarnation, c'est un vieux dogme chrétien, un vieux dogme de l'Église, disant que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Ce dogme a eu des interprétations très diverses, et ça a donné lieu à une multitude d'hérésies, en particulier en ce qui concerne la nature du Christ et la façon avec laquelle Dieu peut être considéré comme présent dans le Christ. Il y a donc de très nombreuses opinions différentes, même si la pensée dominante en Occident, qui est celle qui a été définie par l'Église de Rome, que l'on appelle l'orthodoxie romaine, cette pensée orthodoxe, elle, a toujours été très ferme et a toujours défini une position unique et a toujours lutté pied à pied pour conserver cette position qui est la sienne. Mais néanmoins, on voit dans l'histoire donc qu'il y a eu de très grandes variantes et de très nombreuses hérésies, et aujourd'hui encore, l'unanimité est très loin d'être faite sur cette très délicate question de l'incarnation. Et donc aujourd'hui, parler de l'incarnation est un sujet délicat parce que vais-je dire ? Est-ce que vous voudriez que je vous fasse un exposé de toutes les hérésies possibles, que je vous dise ce que a défini l'Église de Rome, et ce que, sur ce point d'ailleurs, Calvin et Luther n'ont pas remis en cause entre nous, ou est-ce que je dois vous dire ce que je pense ? Eh bien, je vais faire un petit peu tout, en fait, parce que je crois que l'honnêteté même veut que j'ouvre suffisamment de portes pour que ma propre opinion ne soit pas la seule qui soit prêchée en cet instant et en ce lieu. La question, vous disais-je, de l'incarnation, c'est donc de savoir ce qu'y a-t-il de divin et d'humain dans le Christ, c'est-à-dire est-ce que le Christ est Dieu ? C'est une image de l'incarnation forte. Dieu, on le trouve présent en Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est Dieu. Ou est-ce que Jésus-Christ est avant tout plutôt un homme, et bon, il y a un peu de divin en lui, comme il y en a en certains, mais lui, il en a eu un peu plus que nous. Ce serait plutôt une doctrine faible de l'incarnation. Je vous disais que la doctrine romaine orthodoxe, elle, a toujours essayé de maintenir une position ferme qui est celle du juste milieu. C'est-à-dire que l'orthodoxie romaine a voulu à la fois sauver dans le Christ la totale humanité et sauver la totale divinité en lui, et de rester sur cette espèce de fil de rasoir entre l'humanité et la divinité en Christ. Et les hérésies, elles, ont toujours basculé d'un côté ou de l'autre. Alors voici les extrêmes. Il est toujours intéressant de s'intéresser aux extrêmes. L'extrême du côté de l'interprétation que j'appellerais faible de l'incarnation, c'est de dire, et ça a été dit, et ça l'est encore par certains, de dire Jésus, en fait, c'est un homme, pleinement homme, c'est un homme comme vous et moi, qui a en quelque sorte intégré la parole de Dieu pleinement en lui. Il l'a totalement comprise, il l'a intégrée en lui. Ça faisait comme une partie de lui-même, en quelque sorte. Et à l'extrême, l'on pourrait ainsi dire que Jésus est une sorte de prophète. C'est par exemple la position des musulmans, qui disent Jésus est un prophète, et même, semblerait-il, des premiers chrétiens à Jérusalem. La première communauté chrétienne, comme on le voit dans les discours des Actes des apôtres, de Pierre et des autres apôtres, apparemment était de cette tendance. C'est aussi eux qu'on a appelé, du terme technique, des hébionites. C'était la tendance de Jérusalem, de la première communauté chrétienne, de voir Jésus du côté de l'homme et de se dire que Jésus, c'est simplement un homme qui était très uni à Dieu et qui était très plein de la présence de Dieu. L'autre extrême, que l'on appelle plutôt la tendance d'Alexandrie, consiste à voir Jésus plutôt du côté de Dieu. Cela se fait en particulier à partir de l'évangile de Jean, parce qu'en effet, si les évangiles synoptiques, les trois premiers évangiles, sont plutôt du côté de la tendance que j'ai appelée de Jérusalem, c'est-à-dire ne disent jamais que Jésus est Dieu, néanmoins l'évangile de Jean est celui qui divinise le plus le Christ. Et en particulier, cette tendance est construite à partir de ce verset 14 de l'évangile du premier chapitre de Jean. Et la parole, qui est Dieu, s'est faite chair. Et à partir de là, on a vu différentes choses se construire. Dans les extrêmes, puisque c'est ce qui m'intéresse pour l'instant, il y a une pensée qu'on a appelée le docétisme. Les docètes tirent leur nom du mot grec doxa, qui veut dire l'apparence. Et les docètes disaient, Jésus, c'est Dieu sous une apparence humaine. C'est-à-dire que dans le fond, on a l'impression que c'est un homme, mais ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une illusion en quelque sorte. Donc pour les docètes, le Christ était Dieu lui-même qui avait une sorte qui donnait une impression d'apparence humaine, mais dans le fond, il n'était pas vraiment homme. Dans ce même sens, il y a eu toutes les hérésies que l'on a appelées monophysites, plutôt qu'étaient appelées ainsi par l'Église de Rome, qui, elle, défendait les deux natures. Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, et on appelait monophysites ceux qui oubliaient une des deux natures, et en particulier ceux qui oubliaient la nature humaine du Christ et qui ne voyaient dans Jésus que Dieu lui-même. Et disait Jésus, c'est Dieu. Et ces hérésies monophysites, qui est une tendance de beaucoup de chrétiens aujourd'hui d'ailleurs, a donc été très radicalement condamnée par l'Église de Rome en disant ça ne tient pas debout. Et parce que ce n'est pas Dieu qui meurt sur une croix, Dieu ne peut pas mourir sur une croix, ça ne peut pas être Dieu qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ça ne peut pas être Dieu qui pleure, ça ne peut pas être Dieu qui doute, et donc par conséquent, cela ne colle pas. Et ces hérésies ont aussi été appelées les hérésies patripatiennes, parce qu'elles faisaient souffrir le Père. C'est les hérésies qui faisaient donc subir la passion au Père, c'est-à-dire à Dieu lui-même, alors que la pensée dominante en théologie a toujours dit que Dieu ne pouvait évidemment pas mourir ni souffrir. Ces hérésies ont aussi été appelées, parce qu'elles ont eu beaucoup d'importance dans l'histoire de la théologie, des hérésies modalistes, parce qu'elles disaient que Jésus-Christ n'était qu'un des modes de l'existence de Dieu. Alors on trouve ainsi, chez ceux qui défendaient ces théories-là, des discours absolument extraordinaires, montrant que Jésus, dans sa naissance, en fait, c'est comme si Dieu, qui passait à travers la Sainte Vierge comme à travers un tuyau et qui s'enrobait d'humanité. Vous voyez ? Donc on a ces images qu'on imagine très bien visuellement. Dieu qui passe à travers la Sainte Vierge et qui, en passant à travers la Sainte Vierge, s'enrobe d'humanité et ainsi devient visible, un petit peu comme si Dieu, invisible, revêtait une sorte d'habit, revêtait un habit, une chemise humaine, et que du coup, par ce corps humain qui est purement physique et extérieur, Dieu deviendrait visible. L'orthodoxie, vous disais-je, a toujours voulu défendre que Jésus était à la fois homme et Dieu, et qu'il y a deux natures en Jésus, deux natures en Christ, et que l'incarnation ne détruit pas la nature humaine. Et puis, il y a eu encore à ce niveau-là différentes nuances, parce qu'on trouve toutes les nuances, je ne vous en dirai qu'une, parce que c'est celle qui, je crois, aurait le plus de faveur aujourd'hui chez beaucoup de chrétiens, mais je crois qu'elle est... Là-dessus, je suis très orthodoxe, je pense que l'orthodoxie romaine a eu raison de la condamner aussi. C'est la théologie d'Apollinaire de Laodicée, et qui disait, oui, d'accord, Jésus est un homme complet, mais en fait, c'est un homme complet dans lequel l'âme, la pensée, l'intelligence, tout cela est remplacé par Dieu, si vous voulez. C'est-à-dire que Jésus, c'est bien un corps complet qui peut vivre, souffrir, aimer, etc. Mais c'est un corps dans lequel toute la pensée, c'est Dieu qui pilote à l'intérieur de Jésus. Et donc, il n'y a pas de volonté propre dans le Christ. Là encore, la pensée orthodoxe romaine a lutté pour dire non. Même s'il y a union en Christ de deux volontés, néanmoins, il y a deux volontés en Christ. Il y a celle de l'homme et celle de Dieu, mais il se trouve que Jésus adhère à la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a dans le Christ toujours ces deux natures. C'était absolument l'idée de l'orthodoxie romaine que je garderai pour moi-même. Jésus est un homme complet, avec sa propre volonté, avec une âme individuelle, créée, et je dirais non éternelle dans le passé. Et puis du côté de l'homme, les variantes, on les trouve par exemple du côté des Nestoriens, qui est l'hérésie qui peut-être aurait le plus de succès chez les protestants aujourd'hui. Les Nestoriens, qu'on appelait aussi les adoptionnistes, qui disaient « Jésus n'est pas par nature et par conception fils de Dieu, mais il l'est devenu, en particulier au moment de son baptême. Et par conséquent, pour les Nestoriens, Jésus est pleinement homme et pleinement uni à Dieu, mais cette union, qu'on appelle hypostatique, ne s'est pas faite indépendamment de lui au moment de sa conception, mais elle s'est faite quand il avait l'âge adulte et a été en particulier explicité lors de son baptême à 30 ans. C'est pour ça qu'on appelle cette hérésie adoptionniste. Et il y a encore des Nestoriens aujourd'hui. Mais si l'on prend la doctrine officielle, pourquoi pas? Et l'on dit, d'accord, Jésus, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Alors, dès que l'on dit l'un des deux termes, on a tort. Si vous dites Jésus est Dieu, vous avez tort, parce que vous oubliez que Jésus est aussi homme. Si vous dites Jésus est homme, vous avez tort, parce que vous oubliez que Jésus est aussi Dieu. Et donc il faut dire que Jésus, il est à la fois homme et Dieu. Mais là encore, on peut le voir de deux manières. Soit à partir de l'homme, soit à partir de Dieu. Oui, c'est vrai, je pense qu'en bonne théologie, l'idée de l'incarnation, c'est de dire il y a un point quelque part, un jour dans l'histoire et dans l'univers, où Dieu a rencontré la création. C'est-à-dire il y a un point de contact entre Dieu et la création. Il n'y a pas une sorte de séparation, Dieu d'un côté, le monde de l'autre, mais à un moment donné, Dieu a touché la création. Et on dit le Christ est ce point de rencontre optimum et privilégié entre Dieu et le monde. Mais là encore, vous disais-je, on peut le voir de deux façons. Oui, Christ est un peu l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, il est celui qui maintient les deux dimensions, verticales et horizontales, mais on peut le voir soit à partir du bas, soit à partir du haut. Et là encore, il y a différentes tendances en fonction de la pensée de chacun. Certains le voient à partir du haut, en disant « Jésus-Christ, c'est Dieu qui descend visiter l'humanité. Jésus-Christ, c'est Dieu qui envoie son Fils unique pour rencontrer l'homme. » C'est Dieu qui descend dans le monde, qui incline les cieux et qui descend, comme le faisait annoncer ce psaume 144. Et inversement, il y a ceux qui aiment mieux le voir de l'autre côté. Jésus-Christ, c'est un homme qui a reçu Dieu. C'est un homme qui a accueilli cette présence de Dieu. Et donc c'est un homme qui, lui, nous amène vers Dieu, nous élève vers Dieu. Et donc il y a les ascensionnistes et les descensionnistes, ceux qui voient en le Christ Dieu qui descend et ceux qui voient en Christ un homme qui est élevé à Dieu. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Je crois que ça dépend un peu des natures. Mais dans le fond, je crois que là encore, je serais très prudent et finalement très, très romain en disant qu'il faudrait garder les deux dimensions en main et éviter de ne voir le Christ que dans le sens Dieu qui envoie son Fils et qui finalement fait dégringoler son Fils sur terre comme s'il imposait sa présence dans le monde, éviter de le voir aussi dans l'autre sens parce qu'on risquerait de tomber dans une sorte de conception, je dirais, un peu pélagienne, c'est-à-dire de l'homme qui s'élève jusqu'à Dieu et du Christ qui ferait du Christ une sorte de héros qui lui aurait, se serait élevé jusqu'à Dieu, nous montrant la présence de Dieu et la rendant tangible, certainement qu'il faut garder encore une fois un petit peu les deux. Mais j'avoue ma préférence quand même pour Jésus-Christ et l'incarnation du Christ comprise à partir de l'homme. C'est ma préférence et je m'excuse auprès de ceux qui en ont une autre. Mais même en disant cela, je ne suis pas très coupé de la tradition de l'orthodoxie romaine. Et il y a en effet pour moi la formule qui pour moi est la plus compréhensible, la plus rationnelle et la plus acceptable de l'incarnation et de la christologie. Elle a été dite par le pape Léon en 449, juste avant le concile juste à peu près au moment du concile de Nicée, où il disait du Christ que le Christ est, il le disait en latin bien sûr, verus homo vero unitus est Deo, c'est-à-dire que Jésus-Christ est un homme véritable uni au Dieu véritable. Et j'avoue que cette formule, je la trouve formidable. Jésus-Christ est un homme et l'homme véritable, uni au Dieu véritable. Et ce qui me semble à moi le plus crédible aujourd'hui, ça n'est pas cette histoire de demi-dieu, de Dieu qui se rendrait présent dans un homme, d'un Dieu qui aurait une apparence humaine, de Dieu je ne sais quoi, mais de dire il y a en Christ le lieu de l'union entre le divin et l'humain, et que le Christ est un homme véritable, totalement uni au Dieu véritable. Et c'est cette union dans le Christ entre Dieu et l'homme qui fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors aujourd'hui, donc, vous disais-je, beaucoup de gens penchent d'un côté ou de l'autre. Certains disent facilement « Jésus-Christ, c'est Dieu », et ça n'est pas juste, ça pêche par omission. D'autres disent « Jésus-Christ est un homme inspiré, très près de Dieu, tellement proche de Dieu, uni à Dieu, que ce qu'il dit est semblable à ce qu'aurait pu dire Dieu ou s'il avait parlé lui-même. » Et ces deux tendances existent. Je crois que ces deux tendances recèlent chacune des avantages et des inconvénients. L'intérêt d'une doctrine forte de l'incarnation, c'est-à-dire de vraiment avoir une idée très divine de Jésus, l'intérêt c'est que cela fait de Dieu, plutôt cela fait de Dieu un Dieu proche. Et cette conception forte de l'incarnation, d'une certaine façon, limite la transcendance de Dieu et nous montre que Dieu ne reste pas dans son ciel, mais que c'est un Dieu qui s'approche de nous, que c'est un Dieu qui ne reste pas insensible au monde, que ce n'est pas un Dieu imperturbable, immuable, éternel, mais c'est un Dieu qui s'approche, c'est un Dieu qui descend, c'est un Dieu qui vient nous voir, c'est un Dieu qui accepte de partager nos joies et nos peines, c'est-à-dire que c'est un Dieu compatissant. Et donc cette doctrine forte de l'incarnation a un intérêt, parce qu'elle nous rapproche Dieu et le rend plus humain en quelque sorte. Alors certains en ont besoin, parce que certains ont besoin de croire dans un Dieu très humain, même s'il devait être un peu trop humain ou un peu trop faible. Certains en ont besoin. Et je ne critique pas, ce n'est pas ma tendance, mais je comprends que certains puissent l'avoir. Et c'est une tendance aujourd'hui assez forte, pas seulement dans le bas peuple, mais aussi chez les théologiens. Et par exemple, il y a un théologien qui s'appelle Moltmann, qui a publié il y a quelques années un livre qui était intitulé « Le Dieu crucifié ». Le Dieu crucifié, voilà. Cette idée d'un Dieu crucifié, c'est-à-dire qu'on retombe là dans, en fait, l'hérésie monophysite et patripassienne que je dénonçais tout à l'heure, mais néanmoins, cette tendance existe. Et ainsi, on dit aussi parfois à ceux qui sont dans le deuil et dans la souffrance, lorsque par exemple une famille dit « Mais comment Dieu a-t-il pu laisser mourir ma petite fille de 4 ans ?» Et j'ai entendu peu de temps un homme d'église dire à cette famille « Eh bien écoutez, je crois que... » Alors ces gens disaient « Mais que fait Dieu ?» Et j'ai entendu cet homme d'église dire « Dieu, il s'assied à côté de vous pour pleurer avec vous. » Voilà. Donc là, on est dans, je dirais, dans l'extrême de l'incarnation, d'un Dieu qui, à la limite, n'agit plus comme un Deus ex machina, mais un Dieu qui est tout entier dans la compassion et dans la douceur et dans la proximité. L'autre intérêt d'une théologie forte de l'incarnation, c'est que cela, en fait, permet de transférer la question de Dieu sur le Christ. Parce que Dieu, c'est difficile à croire un petit peu, on ne le voit pas, pour certains c'est trop abstrait. C'est... Et finalement, en disant, ben écoutez, on n'a pas besoin de croire en Dieu, puisque Dieu s'est rendu présent en Christ, vous n'avez qu'à croire au Christ. Et combien de chrétiens aujourd'hui, finalement, ne mélangent pas les deux, et croient en Christ comme s'ils croyaient en Dieu, c'est-à-dire qu'à la limite se dispensent de croire en Dieu pour croire au Christ. Et pour eux, être chrétien, c'est croire dans le Christ comme on croirait en Dieu. Alors c'est vrai que là aussi, je comprends, et j'ai été moi-même dans mon adolescence très, comme l'on dit, christocentrique, parce que Dieu, j'avais du mal à concevoir, mais le Christ est plus facile. On l'imagine, on peut le voir, on sait ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, on peut se le représenter, et donc croire dans le Christ, c'est quand même beaucoup plus facile que de croire en Dieu. Mais cette facilité, pour moi, en tout cas intellectuellement, n'est pas une bonne excuse. Et d'une certaine façon même, je dirais qu'elle est pratiquement condamnable. Parce que, en faisant cela, on retomberait dans une sorte de représentation humaine de Dieu. Et on serait presque, je dirais, sous la condamnation des 10 commandements, tu ne te feras pas d'image du Christ, d'image de Dieu pour te prosterner devant elle. Ces gens prennent au sens fort, ce qui est d'ailleurs dit dans Paul, que Jésus est l'image du Dieu invisible et se prosternent devant l'image. Donc finalement, il y a là quelque chose, à mon avis, d'un petit peu douteux, voire d'un petit peu idolâtrique, ou en tout cas, il y a un risque d'idolâtrie. Parce qu'en effet, le but de la théologie n'est pas nécessairement de faciliter les choses aux gens. Parce que si le but de la théologie, c'est de faciliter des choses, et si l'on dit « mais si, c'est très bien de dire que Jésus est Dieu et qu'on peut se passer de Dieu pour croire en Jésus parce que c'est plus simple pour le monde », alors allons-y. Et effectivement, c'est plus facile aussi d'adorer des statues, c'est plus facile aussi d'adorer des images, des représentations et des tableaux. Et pendant qu'on y est, retombons à plat ventre dans l'idolâtrie, parce que finalement, c'est beaucoup plus facile d'adorer des choses visibles, matérielles et concrètes, d'adorer des veaux d'or, que d'adorer un Dieu que l'on ne voit pas, d'un Dieu qui parle parfois d'une façon incompréhensible et d'un Dieu qui se fait attendre, comme celui qui était présent sur le mont Sinaï. Et puis, il y a encore d'autres dangers de cette doctrine forte de l'incarnation. L'autre danger, c'est que l'on risque de tomber dans un Dieu qui n'est plus l'absolu. Si Dieu est trop humanisé, alors il devient un Dieu vulnérable. Certains aiment ce Dieu vulnérable. Mais néanmoins, je crois que l'on peut avoir besoin, et c'est en tout cas ce que je ressens moi, on peut avoir besoin, à un moment donné, d'accrocher sa vie à quelque chose de transcendant, à quelque chose de fort, et quelque chose d'immuable. Et si au moment où je pleure, ce Dieu dans lequel je mets mon espérance et ma confiance pleure désespéré à côté de moi, où est l'espérance? Où est la force? Où est le rocher? Où est la forteresse? Où est celui qui me garde? Où est celui qui me dit « Tu pleures, mais il y a quelque chose de solide et d'indestructible dans ce monde. » Oui, moi j'ai besoin d'un Dieu fort. J'ai besoin d'un Dieu qui, certes, comprend que je pleure, mais d'un Dieu qui, lui, est capable de garder la force, le courage, l'espérance et l'éternité. Et même si dans ma vie tout s'écroule, même si dans ma vie tout redevient sujet à caution, même si dans ma vie tout peut basculer, j'ai besoin que Dieu, lui, ne bascule pas, que Dieu reste éternel, que Dieu reste fort et qu'il ne soit pas quand même pas trop près de moi. Parce que moi, j'ai déjà assez de faiblesse en moi. Et si en plus Dieu devient faiblesse, où est la force ? C'est effectivement le danger d'un Dieu certes compatissant, mais qui d'une certaine manière devient impuissant ou qui finalement ne peut plus faire grand-chose. Et puis enfin, le dernier danger que je vois dans cette doctrine forte de l'incarnation, c'est qu'on risque de perdre le monothéisme strict. Parce que finalement, on se retrouve avec deux dieux. Il y a un Dieu dans le ciel, un Dieu sur terre. Il y a Dieu le Père et il y a Jésus-Christ. Et donc, on a deux dieux. Alors, on essaye de mélanger un peu tout ça en disant « Oui, mais le Père, le Fils, c'est pareil. » Mais on dit « Mais c'est pareil sans être pareil. » Alors, on dit « C'est le mystère de la foi. » Mais le mystère de la foi, pour moi, ça n'est pas quelque chose qui me satisfait. Je veux bien qu'il y ait des mystères, mais il ne faut pas que ce soit une façon, je dirais, de cacher des irrationalités ou des absurdités dans le discours théologique. Certes, Dieu me dépasse, mais il y a quand même là, effectivement, et d'ailleurs les musulmans le disent, et d'autres, qu'il y a un risque de perte d'un monothéisme strict. Or, il est vrai que moi-même, par nature peut-être, je suis très strictement monothéiste. J'ai un Dieu et un seul Dieu. J'en ai ni deux, ni trois, ni cinq, ni vingt, ni trente. J'en ai un. Dieu est unique. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, est un. Venons-en maintenant à l'incarnation faible. L'incarnation faible, je vous disais, c'est de voir plutôt Jésus du côté de l'homme, de l'humain. Alors là, l'avantage, c'est que donc, oui, on laisse Dieu dans le ciel, on garde l'idée d'un monothéisme strict, Dieu est l'absolu et reste l'absolu. Il reste le transcendant, il est transcendant et il reste transcendant. L'avantage, c'est que effectivement, du coup, la foi est ce qui m'accroche à quelque chose d'immuable, d'éternel, quelque chose qui ne peut pas être remis en cause, c'est que Dieu est vraiment l'absolu. Et par la foi, je m'accroche à l'absolu. Et moi qui suis passager, par la foi, je m'accroche à l'éternité. L'autre avantage de cette théologie de l'incarnation faible, c'est que finalement, elle offre une théologie, ou plutôt une christologie, plus rationnelle. Elle laisse Dieu chez les dieux, chez Dieu, elle laisse les hommes chez l'homme, et il n'y a pas cette histoire compliquée de demi-dieu, de Jésus qui est Dieu sans être Dieu, qui est homme tout en étant homme, en n'étant pas Dieu, en étant ceci, en étant cela. On simplifie les choses, non, Jésus est un homme, pleinement uni à Dieu, et c'est quand même, pour un esprit moderne, beaucoup plus facile à comprendre. Mais l'inconvénient de cette doctrine faible de l'incarnation, c'est que Dieu reste lointain et que finalement il risque d'aider peu le fidèle. Et c'était d'ailleurs une des difficultés de Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Thomas d'Aquin qui lui avait une conception très forte de la transcendance de Dieu. Et il met des pages et des pages pour essayer d'expliquer que Dieu a beau être transcendant et immuable, néanmoins il compatit. Mais si Dieu compatit, alors il n'est plus transcendant ni immuable. Et donc c'était très compliqué pour lui, et il avait beaucoup de mal à comprendre cela. Si Dieu est compatissant, alors ce qui arrive dans le monde peut avoir prise sur lui, et effectivement, c'est un Dieu qui peut, à la limite, rire ou pleurer. Le point de vue biblique sur la question, il est compliqué. Parce que, je vous disais, dans les trois premiers évangiles et dans les Actes des apôtres, la question de l'incarnation n'est pas vraiment traitée. Jésus-Christ est un homme appelé fils de Dieu, donc il est le représentant de Dieu, il parle au nom de Dieu, c'est vrai, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. C'est plutôt dans l'évangile de Jean que l'on trouve cela. Dans cette phrase que je vous ai lue tout à l'heure, « Et le Verbe s'est fait chair ». Mais il y a, là, dans cette phrase, il y a trois catastrophes possibles. La première concerne le mot « Verbe », « Et le Verbe s'est fait chair ». Première catastrophe, c'est d'imaginer que le Verbe est une sorte d'autre Dieu. Là, la théologie orthodoxe a bien dit, le Verbe de Dieu, c'est Dieu, Dieu est parole, il n'y a pas de distinction entre Dieu et son Verbe, qui est appelé le Fils dans la Trinité. Par conséquent, quand on dit le Verbe s'est fait chair, c'est Dieu lui-même. Autre catastrophe, c'est le mot « chair ». Le Verbe s'est fait chair. C'est qu'aujourd'hui, on croit entendre par « chair » une chair dépourvue de raison et d'âme, alors que dans la Bible, la chair, c'est l'être humain complet. Effectivement, quand, par exemple, dans l'Ancien Testament, on dit « toute chair est comme l'herbe », ça ne veut pas dire « toute la viande est comme l'herbe », mais tout être humain, ou toute chair connaîtra Dieu, tout être humain, avec sa pensée, son âme, connaîtra Dieu. Et troisième catastrophe, c'est le « c'est fait chair ». C'est que Dieu, en tant qu'il est l'absolu, ne peut se faire rien du tout. Dieu est Dieu et il reste Dieu. Et par conséquent, cette phrase « et le Verbe s'est fait chair » est effectivement très compliquée et risque d'être compris dans un sens hegélien du terme qui disait que l'absolu ne pouvait être et se révéler comme étant l'absolu que dans la catastrophe, c'est-à-dire qu'en se détruisant lui-même et dans la tragédie. Eh bien non, je ne crois pas que l'évangile de Jean soit hegélien, il n'y a pas de tragédie ni de catastrophe en Dieu. Dieu reste Dieu, et quand on dit que le Dieu s'est fait chair, cela ne veut pas dire que Dieu a enrobé l'humanité comme on passerait une tenue d'homme-grenouille, mais que ça veut dire que dans un être humain complet, Dieu s'est trouvé présent. Alors comment s'est-il trouvé présent? Eh bien, si Jésus-Christ incarne Dieu, pour comprendre comment cela a pu se faire, il faut savoir ce qu'est Dieu. Et là encore, peut-être que ça dépend un peu de la conception que l'on a de Dieu. Si l'on a une image très humaine et très personnelle de Dieu, alors c'est difficile de comprendre qu'une personne puisse s'incarner dans une autre, je reconnais. Si on imagine Dieu comme une personne, comment une personne peut-il s'incarner dans une autre personne? Et c'est là où l'on a un peu deux personnes. Et c'est un problème parce que Jésus-Christ n'est pas deux personnes, il est une personne. Ou alors, si l'on a une conception plus philosophique de Dieu, en disant « Dieu, mais non, Dieu c'est l'esprit, Dieu c'est une parole créatrice, Dieu c'est l'amour », Alors c'est beaucoup plus facile, parce que l'on peut comprendre que Jésus-Christ incarne l'amour, que Jésus-Christ incarne même la parole créatrice de Dieu. Il y a un discours de vérité, le Christ incarne ce discours. Il est l'incarnation de la parole de Dieu, ça je le comprends. Ou si l'on parle Dieu en thème de volonté, on dit le Christ est celui qui incarne la volonté de Dieu. Ou de Dieu en tant que projet créateur, Dieu a un projet créateur, Dieu incarne ce projet créateur. Ça, cela semble évidemment beaucoup plus simple, et l'on peut dire effectivement que de ce côté-là, Jésus incarne Dieu, comme Hitler incarne le nazisme, par exemple, ou que Yehudi Menuhin est l'incarnation de la musique pour violon, si vous voulez, ou que Paganini est l'incarnation de la virtuosité. Jésus incarne Dieu dans la mesure où il a vécu en lui-même, en plénitude, ce qu'est une chose, une dimension abstraite, une idée abstraite, qui est Dieu lui-même. Et là, c'est effectivement beaucoup plus simple. Il semble d'ailleurs que ce soit un petit peu l'idée de l'évangile de Jean, lorsque Jean dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu », dans le sens où ce Dieu est invisible, que Dieu l'incarne, que Jésus-Christ l'incarne. En conclusion, que dirais-je ? C'est que la théorie de l'incarnation me semble être la meilleure et la pire des choses. Elle est dangereuse parce qu'elle peut faire basculer dans le paganisme. Dieu, s'il est sur terre, s'il est un homme, pour moi, n'est plus Dieu. Mais elle est aussi la meilleure des choses parce que c'est là une des particularités du message chrétien, c'est de montrer que Dieu est proche et que c'est un Dieu plein d'amour. Dans la lettre de Paul, Colossiens 1, verset 15, Paul dit que le Christ est l'image de Dieu, du Dieu invisible. C'est-à-dire que le Christ nous révèle Dieu. Oui, ça je comprends. Si le Christ a une sorte de transparence par rapport à Dieu, le Christ est tellement uni à Dieu, tellement uni à cette personne de Dieu, tellement proche de Dieu, que d'une certaine façon, quand on voit le Christ, c'est comme si on voyait Dieu. Mais il n'est pas Dieu en lui-même. De même que Jésus dit aussi en Jean 14, 9, « Qui m'a vu a vu le Père ?» Mais il ne dit pas qu'il faille confondre les deux personnes, une fois de plus. Et donc je crois qu'effectivement, il y a dans l'incarnation, non pas l'idée de confusion des personnes, mais plutôt l'idée que dans le Christ se trouve la plénitude de la présence de Dieu, parce qu'il était pleinement uni à lui. L'intérêt de cette incarnation, pour moi, elle vient aussi du fait que je ne la vois pas nécessairement comme un événement historique et unique. Il n'y a pas un jour Dieu qui s'est incarné, et donc je suis là devant un phénomène curieux, mystérieux, que je regarde avec curiosité et intérêt. Mais l'intérêt pour moi de cette incarnation, c'est que nous sommes tous appelés au même sort. Et ça, c'est une grande thèse de la pensée grecque qui s'appelle la théiosis, c'est-à-dire la divinisation. Et que dans le fond, nous sommes tous appelés à incarner aussi Dieu lui-même. Nous sommes tous appelés à ce que Dieu habite en nous et que cette incarnation du Christ, elle est l'image de celle à laquelle nous sommes, nous, appelés. Et du coup, je comprends mieux tout ce que cela peut vouloir dire. Et Paul lui-même, d'ailleurs, en parlant du Christ et en parlant de l'incarnation, dit que Jésus, c'est toujours dans 1 Colossiens 1, verset 15, il dit que le Christ est le premier-né de la nouvelle création et qu'en étant l'image visible du Dieu invisible, il est le premier de toute une grande série de frères. Et ainsi, l'incarnation ne consiste pas à remplacer Dieu par le Christ, mais plutôt à ouvrir une voie, à montrer un chemin. Le Christ révèle Dieu, parce que tellement il était uni à Dieu que ses paroles et que ses actes étaient comme si c'était les actes mêmes de Dieu, parce que le Christ nous a montré, par ce qu'il a été, par ce qu'il a vécu, il nous a témoigné, si vraiment il était mu et uni à Dieu, il nous a montré que Dieu était amour, que Dieu était pardon, que Dieu était service, que Dieu était compassion, que Dieu était paix, joie, lumière et force. Autrement dit, le Christ nous a montré l'exemple, et c'est en ce sens que l'incarnation est la chose effectivement essentielle, tant que l'on essaye d'éviter l'idolâtrie simplificatrice, parce que l'incarnation effectivement nous rend Dieu présent en nous pour notre vie et pour nous tous. Amen.